La porteuse de pain, troisième partie, chapitres 11 à 15. En revenant à lui-même, après un long évanouissement, Duchemin avait été obligé de répondre aux questions du chef de gare et du commissaire de police de Bois-le-Roi. Le procureur de la République et un juge d'instruction devaient arriver de Melun dans la matinée pour suivre l'affaire. Ovide Soliveau, ayant déjeuné très amplement, revint à la villa des Mûriers et passa la journée près d'Amanda, affectant de se montrer aux petits soins pour elle. De son côté, l'essayeuse de Madame Augustine se gardait bien de laisser paraître quoi que ce soit des soupçons qu'elle avait conçus. En venant chercher les ordres pour le dîner, Madeleine apporta ce que la jeune femme avait demandé, encre, plume et papier. « Il paraît que vous avez envie d'écrire, » fit Soliveau d'un air indifférent. « En effet, je veux écrire à Madame Augustine. »« Ah ah, qu'avez-vous donc à lui dire ?»« J'ai à lui demander l'autorisation de prolonger un peu mon séjour à Bois-le-Roi. Y voyez-vous des inconvénients ?»« Aucun. » « Seulement, je dois vous prévenir que je serais obligée de vous laisser seule pendant quelques jours. » Amanda tressaillit à la pensée que le pseudo-baron de Reiss pourrait ne point revenir, lui faire perdre ainsi sa trace et demeurer pour elle un danger d'autant plus effrayant qu'il serait invisible. « Me laisser seule ? » répéta-t-elle. « Pourquoi donc ? » ?»« J'ai dit chez moi que je quittais Paris pour une semaine. » et mon absence prolongée causerait certainement des inquiétudes. Ne pouvez-vous écrire ? Assurément non. Le motif de cette impossibilité, s'il vous plaît ? Dater une lettre de Bois-le-Roi lorsqu'on me croit à Marseille serait une insigne maladresse. Je me garderai de la commettre. S'il en est ainsi, fit Amanda, nous partirons après-demain. Il vaudrait mieux vous décider à rester ici 2 jours sans moi. « Je m'ennuierai trop. Bah, 2 jours passent si vite. » Amanda réfléchit que le baron de Reiss pourrait en somme disparaître aussi bien à Paris qu'à Bois-le-Roi, s'il en avait la fantaisie, et après un instant répondit. « Vous avez raison. J'écrirai. Je vais me lever un peu, cela me donnera des forces, et après avoir écrit, je ferai un tour de jardin. » La jeune fille s'enveloppa d'un peignoir, traça quelques lignes, puis, la lettre terminée, la mit sous enveloppe, écrivit l'adresse et l'attendit à Ovid. « Soyez assez aimable pour aller jeter cela à la boîte, » fit-elle. « À l'instant, je serai de retour dans 10 minutes. »« Oh, ne vous pressez pas. Prenez tout votre temps. Je vais aller lire au jardin. » Ovid sortit. Amanda, un livre à la main, alla s'installer sous un petit berceau de verdure, adossée à la muraille d'enceinte de la propriété qu'habitait la sœur du docteur Richard. L'essayeuse de Madame Augustine n'avait nulle envie de lire. Elle posa son livre fermé sur ses genoux et s'absorba dans une rêverie profonde. « Non, non, pensait-elle, il ne m'échappera pas. S'il l'essayait, je saurais le retrouver. Lorsque j'aurai la certitude qu'il a tenté de m'empoisonner, et qu'il a voulu tuer Lucie, je me vengerai, quand bien même la vengeance devrait entraîner ma perte. » En sortant du jardin de la villa des Mûriers, Ovid suivit le quai de Seine pour remonter vers la gare. Tout en cheminant, il réfléchissait lui aussi à la situation. Il aperçut, à quelque distance en avant, le docteur Richard en compagnie de l'octogénaire avec lequel il l'avait déjà vu dans la forêt de Fontainebleau, le jour de son arrivée à Bois-le-Roi. La femme âgée et les 2 jeunes filles complétaient le groupe. René Bosque marchait lentement en s'appuyant sur le bras du docteur Richard. Le vieillard était coiffé d'un chapeau de paille à large bord que de temps à autre il retenait de la main gauche pour le garantir des coups de vent. En passant à côté des promeneurs, Ovid salua le docteur Richard qui lui rendit froidement son salut. René Bosque, par politesse, fit une inclinaison de tête, tout en regardant Soliveau. « Un de vos clients ? » demanda-t-il au médecin. « Pas le moins du monde, » répondit celui-ci d'un ton dédaigneux. Ovide avait à peine dépassé de quelques pas le petit groupe quand il entendit pousser une exclamation. Il se retourna, vit un chapeau de paille roulant à terre, emporté par une rafale, le saisit au passage, revint sur ses pas et le présenta au vieillard. « Ceci est à vous, monsieur, » fit-il. « Vous êtes trop aimable, monsieur, » dit René Bosque, les yeux toujours fixés sur le visage du Dijonnais. « Et je vous... » Il n'acheva point la phrase commencée. Sa figure s'était altérée brusquement. « Ah ! Vous êtes ici ! » s'écria-t-il en reculant d'un pas. « Vous avez donc quitté l'Amérique ?»« Vos traits ne me sont point inconnus, monsieur, » répliqua Soliveau. « Mais je cherche vainement. J'étais à bord du Lord Mayor, avec vous, en 1861, » interrompit René Bosque. Ovide tressaillit. « Et ?» poursuivit l'ancien agent de la Sûreté. « Si vous ne vous souvenez point de moi, je me souviens de vous. Je me nomme René Bosque. » Puis, sans ajouter un mot, il tourna le dos au pseudo-baron de Rice, qui devint très pâle et s'éloigna rapidement. « Vous connaissez donc cet homme ?» demanda le médecin très intrigué. « Oui, je vous raconterai cela tout à l'heure. » Ovide, en se dirigeant à grands pas vers la gare, pensait. « Ce ci-devant policier est à Bois-le-Roi et lié avec le docteur Richard. Voilà qui va hâter mon départ. Il ne fait pas bon ici pour moi. » Après un instant de réflexion, il ajouta « Mais si j'y laisse Amanda, elle pourra revoir ce médecin et savoir par lui, à qui René Bosque va certainement l'apprendre, que le baron de Rice se nomme en réalité Ovide Soliveau. Bah, qu'est-ce que cela peut me faire en somme ? Une fois à Paris, Ovide Soliveau sera comme le baron de Rice, introuvable pour elle. » Arrivé à la gare, il jeta dans la boîte la lettre dont il était porteur, entra au bureau du télégraphe et écrivit cette dépêche. « Paul Armand, industriel, Courbevoie, Seine. Je retourne à Paris demain, baron de Rice. » Ceci fait, il revint à l'hôtel du rendez-vous des chasseurs et donna l'ordre de lui préparer sa note pour le lendemain. René Bosque, sa famille et le médecin étaient arrivés à la maison de la sœur de ce dernier, maison voisine, nous le savons, de la villa des Mûriers. La jeune femme, veuve et riche, vivante avec une demoiselle de compagnie qui ne la quittait jamais, était assise dans le jardin, sous la voûte de verdure formée par de grands arbres et touchant au mur d'enceinte. Le docteur l'aperçut de loin et conduisit vers elle ses visiteurs, qu'elle accueillit avec une grâce parfaite. « Asseyez-vous là, près de moi, monsieur Bosque, » dit-elle au vieillard. « Vous y serez à l'abri du vent fort désagréable aujourd'hui. » Les nouveaux venus s'installèrent. « Fort désagréable, en effet, madame, » répondit l'octogénaire. « En enlevant mon chapeau, il y a quelques minutes, il m'a mis en présence d'un misérable de la pire espèce. » Mademoiselle Amanda, nous l'avons dit, s'était assise un livre à la main, dans le jardin de la villa des Mûriers, sous un berceau contigu à la muraille. Entre elle et les causeurs, il n'y avait que cette muraille. La voix de René Bosque la tira de ses réflexions. Elle écouta, et les paroles arrivèrent à son oreille, nettes et distinctes. « Un misérable de la pire espèce ? » répéta le docteur. « Voulez-vous parler du personnage qui a ramassé votre chapeau ?»«
Précisément. »
« Le baron de Rice, alors ?» Amanda fit un brusque haut-le-corps. « Ah ah !» se dit-elle, « c'est du baron qu'on s'occupe dans la propriété voisine. J'ai bien fait de me placer là. »
René Bosque regarda le médecin en riant.
« Quel nom venez-vous de prononcer ? » fit-il.
« Celui du baron de Rice.
Et vous l'appliquez à l'homme à qui j'ai dit que nous étions ensemble, à bord du Lord Mayor en 1861 ?»
« Parfaitement.
D'où le connaissez-vous ?
J'ai été appelé la nuit dernière à soigner une jeune femme qui habite avec lui depuis quelques jours la villa des Mûriers. »
Amanda, pour mieux entendre, s'était levée et avait grimpé sur le banc. Sa tête arrivait presque au niveau du chaperon du mur. René Bosque reprit.
« Cet homme, mon cher docteur, n'est pas plus baron que vous et moi. » Dans un but que j'ignore, mais qui, quel qu'il soit, m'est suspect, Il a pris un nom et un titre de fantaisie. Il s'appelle en réalité Ovid Solivo.
Vous en êtes sûr ?
Absolument sûr, et j'ai pour cela de bonnes raisons. Tandis que s'échangeaient ces paroles de l'autre côté du mur, Mademoiselle Amanda se répétait tout bas. Ovid Solivo, je n'oublierai pas ce nom. Étrange hasard qui va sans doute m'apprendre tout ce que je désirais connaître. René Bosque reprit.
Ce triste personnage, mécanicien de son état, était il y a 21 ans sous le coup d'un mandat d'amener en France. Il passait en Amérique où il devait entrer dans les ateliers de James Mortimer de New York, et se trouvait à bord du Lord Mayor en même temps que vous et moi.
Voilà qui est singulier, fit le docteur.
Oui, n'est-ce pas? Mais vous trouverez la rencontre bien plus singulière encore quand vous saurez que c'est ce misérable qui m'avait volé le sac de voyage contenant toute ma fortune.
Et vous avez laissé son crime impuni?
Je vous ai dit qu'un passager nommé Paul Armand avait imploré sa grâce en me rapportant mon argent intact. J'ai bien voulu ne pas le dénoncer au capitaine du paquebot. À New York, il se conduisit assez mal, fréquentant les tripots où il perdait la totalité de ses appointements. Appointements d'un chiffre fort rond, car grâce toujours au voyageur qui avait intercédé auprès de moi pour lui et qui était devenu l'associé de James Mortimer, il remplissait les fonctions d'inspecteur des travaux. Je l'avais perdu de vue depuis mon retour en France, et je viens de le retrouver ici sous le nom de Baron de Rice. Cette incarnation nouvelle cache quelques nouvelles gredineries, j'en réponds. Car Ovid Solivo est capable de tout, sauf d'une bonne action.
Je ne savais rien sur son compte, répondit le docteur, et cependant sa physionomie m'a déplu dès le premier moment.
Elle n'est point trompeuse. Ce bandit doit être à Bois-le-Roi ou dans un but criminel.
Jurez-en hardiment.
Il s'est passé cette nuit, à la villa des Mûriers, quelque chose plus que suspect.
Quelle est cette femme qui est avec lui ? Demanda René Bosque.
Une fort jolie personne, sa maîtresse sans doute,
et probablement sa complice. Si j'appartenais encore à la police de sûreté, j'aurais bientôt fait de tirer cela au clair.
Amanda se prit à trembler et devint livide. Le vieillard poursuivit.
Je ne serais point surpris d'apprendre un jour ou l'autre que l'homme a été condamné à mort par contumace, et la femme à la réclusion. Qui se ressemble s'assemble. Dites-moi quelle est la chose suspecte dont vous parlez et qui s'est passé cette nuit à la villa des Mûriers.
Vous souvenez-vous de ce que je vous racontais il y a quelques jours au sujet de la liqueur canadienne dont on m'avait vanté les propriétés?
Et qu'on appelle en Amérique liqueur bavarde.
Oui, je me souviens parfaitement.
Eh bien, cet homme, ce prétendu baron de Rice, en a fait usage cette nuit pour provoquer l'ivresse brutale qui donne le délire et pour faire parler la femme qui l'accompagne.
Croyez-vous qu'il ait réussi?
Ce n'est pas douteux. La femme, en proie à un délire passager, a dit certainement tout ce qu'elle pensait. Puis une crise s'est déclarée. Crise terrible, crise effrayante. Bref, je suis arrivée juste à temps. Le danger devenait grand.
Pourquoi donc?
La dose de liqueur était trop forte. Sans une potion calmante que j'ai administrée, la malheureuse serait morte d'une congestion cérébrale.
Avez-vous dressé procès-verbal de tout cela? Demanda l'ex-agent de la sûreté.
Il n'y avait point matière à procès-verbal.
Ce n'est pas mon avis. Je vois là une tentative d'empoisonnement.
Non, une simple imprudence.
Mais ce sont des voisins très dangereux, fit la sœur du médecin.
Peut-être ferait-on bien d'édifier l'hôtesse du rendez-vous des chasseurs sur le compte de ses locataires.
À quoi bon? Ces gens ne sont ici que pour quelques jours, et demain sans doute ils auront disparu. Qu'ils aillent se faire pendre ailleurs.
Oui, et c'est assez parlé d'eux, dit René Bosque. Il m'eût été agréable cependant de tenir la promesse que j'avais faite jadis à Ovid Solivo.
Quelle promesse?
Celle de ne pas le ménager le jour où je le verrai commettre de nouveau une mauvaise action.
Mais c'est trop nous occuper de ce drôle. Parlons d'autre chose.
Vos blessés, docteur, comment vont-ils?
Et la conversation, changeant de sujet, s'engagea sur un terrain neuf. Amanda descendit de sa chaise et, pâle, tremblante, se soutenant à peine, rentra dans le pavillon.
« Allons, » murmurait-elle, « j'avais bien deviné.
C'était un voleur autrefois, et le voleur est devenu assassin. Il s'appelle Ovid Solivo, et non point le baron de Reiss.
Il a été en Amérique le protégé de Paul Armand, le père de Mademoiselle Mary, pour laquelle travaillait Lucie. Tout s'enchaîne.
Il lui fallait des renseignements, c'est moi qui l'ai choisi pour les lui donner. Et je suis devenue bêtement sa complice sans le savoir.
Il a failli me tuer, a dit le docteur, en me versant la liqueur indienne pour me faire parler. Et sans le moindre doute, j'ai parlé.
Alors qu'il est, mon opinion sur son compte n'est plus un mystère pour lui.
Mais il ignore que je sais qu'il sait tout. La lutte va s'engager et nous verrons qui sera le plus fort.
Ovid Solivo peut partir.
Il connaît Paul Armand, et par Paul Armand je le retrouverai. Je découvrirai où il demeure et quel motif l'attirait à Joigny.
Cette liqueur dont il a fait usage,
elle doit être ici.
Ah, si je pouvais. Et Mademoiselle Amanda allait se livrer à une perquisition sérieuse lorsqu'elle entendit du bruit dans le vestibule. Elle se laissa tomber sur une chaise et feignit de lire. Ovid entra, le sourire aux lèvres.
« Je vous croyais dans le jardin, ma belle poulette, » dit-il.
« Le vent devenait froid, » répondit la jeune fille. « Je suis rentrée. »«
Et vous lisiez pour vous distraire ?»«
Mon Dieu, oui. En votre absence, il fallait bien tuer le temps. »
Vous avez mis ma lettre à la poste ?
Avant toute chose.
Ensuite, j'ai passé à l'hôtel et donné l'ordre de préparer ma note.
Vous êtes toujours décidé à partir demain ?
Toujours, et je partirai même ce soir si je ne craignais de vous contrarier.
Pourquoi cette hâte ?
Pour revenir plus tôt près de vous.
Eh bien, dans ce cas, quittez-moi ce soir.
Allez vite à vos affaires.
Seulement, je vais bien m'ennuyer.
Quand reviendrez-vous ?
Après-demain, sans le moindre doute, mais je ne veux pas vous laisser sans argent ici.
Voici de quoi parer aux éventualités.
Ovid posa sur la table un billet de banque et reprit. Maintenant, ma belle poulette, adieu, ou plutôt au revoir.
Je file.
Quoi ? Déjà ?
Je n'ai que le temps de ne pas manquer le train.
Allez donc !
Ovid retira la valise de l'armoire où il l'avait enfermée et y plaça différents objets de toilette, puis il reprit.
« Ne vous ennuyez pas trop, ma mignonne. Reposez-vous bien.
Faites appeler le médecin si vous sentez que vous avez encore besoin de lui.
Pensez à moi, et à bientôt. »
Lady Genet appuya ses lèvres sur le front qu'Amanda lui tendait, et sortit vivement.
« Ah, triple gredin, menteur et fourbe !»
pensa la jeune femme en écoutant le bruit de ses pas qui s'éloignaient.
Tu pars si vite, ou plutôt tu t'enfuis, parce que tu as peur de René Bosque.
Revenir après-demain ?
Ma parole d'honneur, il a dit cela sans rire.
Quelle toupet !
Se figure-t-il donc que je n'ai point compris qu'il ne reviendrait pas ?
Il se trompe.
Monsieur le baron Arnold de Reiss, Ovid Solivo de votre vrai nom, nous nous reverrons.
Nous nous reverrons même bientôt.
On frappa à la porte.
Entrez !
Cria l'essayeuse de Madame Augustine. La servante Madeleine franchit le seuil.
« Madame se trouve-t-elle encore de mieux en mieux maintenant ? » demanda-t-elle.
« Oui, ma fille. »
« Alors, tout va bien.
Comme ça, Madame nous reste ? Madame ne fait pas comme Monsieur le Baron ? » ?»«
Je reste, Madeleine. »
« Madame a-t-elle besoin de quelque chose présentement ? » ?»«
Je me sens un grand appétit, et comme je suis tout à fait remise, je mangerai avec plaisir, quoique le docteur ait recommandé la diète.
Madame dînera ici ?
Toute seule ?
Jamais de la vie.
Je mourrai d'ennui.
Je vais faire un peu de toilette et j'irai dîner à l'hôtel.
Bien, madame. Je mettrai votre couvert dans le petit cabinet.
Un mot encore, ma fille.
Vous me semblez une brave enfant.
Voulez-vous me rendre un service qui vous sera payé ?
Je ne demande pas mieux, madame.
Et même pour rien.
De quoi s'agit-il ?
Il faut que je voie le jeune homme blessé qui a été apporté chez votre patronne, Monsieur Duchemin.
Rien n'est plus facile ?
Amanda poursuivit.
Il faut que je le voie, mais vous seul devez le savoir.
Ah ? Fit la servante.
Est-il possible de me conduire à sa chambre sans qu'on s'en doute ?
Dame, oui.
Comment ? En passant par la cour des écuries et des remises, et par l'escalier de service ?
Et, reprit Mademoiselle Amanda, personne n'en saura rien ?
Personne ? Répondit la servante.
Quand madame veut-elle voir notre blessé ?
Nous nous entendrons à ce sujet, fit la jeune femme en mettant un louis dans la main de Madeleine. Monsieur Duchemin est peut-être encore trop souffrant pour soutenir une conversation un peu longue.
Ça se peut bien tout de même. Faudra-t-il dire à monsieur Duchemin que madame désire lui parler ?
Je vous recommande, au contraire, de garder à cet égard le plus grand secret.
Bien, madame. Vous me préviendrez quand je pourrai, sans inconvénient pour le blessé, faire ma visite.
Je tiendrai madame au courant.
C'est convenu. Laissez-moi m'habiller et allez mettre mon couvert. Je vous suis.
Madeleine quitta la villa des Mûriers. Mademoiselle Amanda fit une toilette rapide et se rendit à l'hôtel. La maîtresse du logis la questionna sur sa santé avec toute l'apparence du plus vif intérêt. Puis elle ajouta
« Monsieur le baron nous a quittés. Reviendra-t-il bientôt ?»«
Peut-être ses affaires le retarderont-elles, » répliqua l'essayeuse de Madame Augustine. « Il m'écrira sans doute. Vous voudrez bien recevoir les lettres qui me seront adressées chez vous au nom de Mademoiselle Amanda Reyami ?»«
Parfaitement, » dit l'hôtelière sans témoigner de surprise. Et en effet, elle n'en éprouvait aucune, n'ayant jamais pris sa locataire pour la femme du pseudo-baron de Reiss.
Amanda se mit à table, ne tint aucun compte des prescriptions du docteur Richard, mangea de bon appétit, et vers 9 heures, accompagnée de Madeleine, reprit le chemin de la villa des Mûriers. La lettre écrite par l'essayeuse à sa patronne, Madame Augustine, et mise à la poste par Ovid, était courte mais bien tournée. Amanda demandait un surcroît de permission et se basait sur la nécessité impérieuse de n'abandonner point sa parente gravement malade, à laquelle, jusqu'à sa fin prochaine, trop prochaine hélas, elle voulait prodiguer ses soins. Madame Augustine fut touchée des bons sentiments de son essayeuse et répondit courrier pour courrier en accordant l'autorisation demandée. Elle venait d'envoyer sa lettre à la poste quand on la prévint que Mademoiselle Armand l'attendait au salon où elle se rendit aussitôt. Là, elle fut surprise du changement survenu dans l'apparence de sa cliente. Mary semblait revenir à la santé. Ses joues étaient moins creuses, ses regards moins fiévreux, les taches rouges de ses pommettes moins visibles.
« Vous venez me gronder, n'est-ce pas, mademoiselle ? » fit la tailleuse.
« Pourquoi donc ? » ?»«
Parce que je ne vous ai point encore livré les costumes que vous m'avez commandés.
Mais je réclame une circonstance atténuante. Vous avez, paraît-il, refusé de les essayer. J'en ai conclu que vous n'étiez point pressé.
En effet, je me souviens, fit Mary. J'étais souffrante lorsqu'on est venu. Je ne pensais plus à ces costumes.
Voici les beaux temps.
Je n'en ai que faire. Ils me serviront l'année prochaine.
Ils ne seront plus à la mode.
Eh bien, je les donnerai à ma femme de chambre. Occupons-nous de ce qui m'amène. Je viens choisir des étoffes et des façons.
Pour toilette de sortie,
pour toilette de réception,
toilette de bal
et toilette de mariée.
De mariée ? Répéta Madame Augustine.
Est-ce que j'aurai l'honneur de faire votre robe de mariage ?
Cela se pourrait, répondit la jeune fille en souriant.
La chose est décidée en principe, mais rien n'est encore fixé quant à l'époque.
Une décision brusque pouvant être prise d'un moment à l'autre, je ne veux point avoir à m'occuper de ces apprêts la veille du grand jour. Et comme vous le voyez, je me mets en avance.
Je suis tout à vos ordres.
Seulement, je n'aurai point cette fois l'ouvrière qui travaille habituellement pour vous. Elle est très souffrante, la pauvre enfant.
Mary fronça les sourcils et répliqua d'une voix sèche.
Eh bien, vous en avez d'autres. Montrez-moi, je vous en prie, des étoffes.
Madame Augustine regarda la jeune fille avec surprise et lui demanda vivement.
Est-ce que Lucie aurait eu le malheur de vous déplaire ou de vous froisser, mademoiselle ?
Vous lui témoignez autrefois beaucoup de sympathie. Vous m'obligerez en ne me parlant jamais de cette jeune fille,
interrompit Mary.
Je ne vous en parlerai plus, mademoiselle. Cependant, je vous prie de bien vouloir m'apprendre de quoi Lucie est coupable. C'est un devoir pour moi de ne point conserver d'ouvrière dont la conduite avec mes clientes aurait manqué de convenance. Lucie est une orpheline, une enfant trouvée. Mais malgré l'irrégularité probable de sa naissance,
je n'avais jusqu'à présent reçu que des éloges à son sujet.
Je n'accuse point Mademoiselle Lucie. Je ne me plains pas d'elle. Je désire seulement qu'à l'avenir elle ne travaille plus pour moi et qu'elle ne remette jamais les pieds à l'hôtel de mon père.
Mais pourquoi ?
Parce que je le veux, et cela doit suffire, ce me semble, fit Mary d'un ton hautain.
Madame Augustine, nous le savons, éprouvait pour Lucie une affection particulière et quasi maternelle. L'attitude agressive de Mary à son égard lui fut très pénible. Elle répliqua respectueusement, mais avec fermeté.
Il m'est impossible de me contenter de ces paroles, mademoiselle. Vous faites naître dans mon esprit des soupçons sur une enfant qui possédait toute ma confiance et qui a été blessée dangereusement à mon service. Vous avez un grief à articuler contre elle ? Cela saute aux yeux. J'ai le droit et le devoir d'insister pour connaître ce grief. Si Lucie est indigne de mon amitié, je la lui retirerai.
Je n'ai rien à vous répondre.
Au moment où Mary prononçait ces mots, la portière du salon se souleva et Lucie, pâle comme une morte et se soutenant à peine, parut sur le seuil.
« Quand on commet une infamie, mademoiselle, » dit-elle d'une voix étranglée par l'émotion, « on a du moins le courage de la commettre tout entière. »
Mary eut un frémissement de rage.
« Lucie ! Lucie ! » s'écria Madame Augustine tremblante.
« Oh, pardonnez-moi, madame, » répondit l'ouvrière. « J'étais là, derrière cette portière. J'attendais pour entrer que vous fussiez seule. Le hasard m'a permis d'entendre les paroles prononcées par mademoiselle, et l'indignation ne m'a pas laissé maîtresse de moi. On m'insultait, on parlait de moi dans des termes qui pouvaient me déconsidérer auprès de vous, me faire perdre votre confiance et votre amitié qui me sont si précieuses. On touchait à mon honneur de jeune fille. Pouvais-je ne pas me défendre ? Je suis entrée. Me voici. Priez mademoiselle Armand de vous dire, en ma présence, pourquoi elle ne veut pas qu'à l'avenir je remette les pieds chez elle. Qu'elle achève son œuvre de calomnie si elle l'ose. J'attends.
Madame, fit Mary en s'adressant à la tailleuse, vous me laissez insulter chez vous ?
Je vous prie de vous expliquer, interrompit Lucie. Est-ce une insulte, cela ?
Voyons, mademoiselle, avez-vous donc oublié qu'il y a 8 jours à peine, vous avez bien voulu venir au Quai Bourbon et gravir en suppliante les 6 étages de la pauvre petite ouvrière que vous dédaignez tant aujourd'hui ?
Assez, commanda Mary. Vous m'écouterez. Je veux me justifier, entendez-vous ? Je le veux.
Je n'en entendrai du moins pas davantage, fit Mary en se lançant vers la porte. La fiancée de Lucien Labroux lui barra le passage.
Lucie ! Lucie ! Balbutia de nouveau Madame Augustine, épouvantée.
Je veux me justifier, madame, répéta la jeune fille. C'est mon droit. À vous de savoir ensuite ce que vous aurez à faire.
Mademoiselle Armand ne se souvient-elle plus qu'il y a 8 jours elle était à mes genoux, me suppliant de me sacrifier pour elle, m'offrant de l'argent, une grosse somme, 300 000 francs, si je consentais à m'éloigner de Paris. Et savez-vous pourquoi tout cela ?
C'est que je suis sa rivale. Elle aime l'homme que j'aime et dont j'étais aimée. Voilà l'unique cause de sa haine contre moi. Demandez-lui si ce n'est pas vrai.
Mary, en proie à un accès de fureur indescriptible, mettait en pièces son mouchoir et ses gants.
Lucie poursuivit. Elle est jalouse, et la jalousie la pousse à cette action odieuse et lâche qui se nomme la calomnie. Allons, mademoiselle, nous voici face à face. Si j'ai menti, démentez-moi. Vous aimez Lucien Labroux, vous voulez l'avoir à tout prix. Ne pouvant le conquérir, vous l'achetez. Vous le paierez de toute votre fortune, et vous me haïssez, parce que vous savez bien qu'en achetant son nom, vous ne pouvez acheter son cœur, et que ce cœur restera plein de moi. Est-ce vrai ? S'il y a autre chose, accusez-moi, j'attends.
Tremblez que je ne parle, fit Mary, dont les lèvres étaient devenues blanches et dont les yeux lançaient des éclairs sinistres.
Non, je ne tremble pas, et je vous défie. Et c'est calme et la tête haute que j'attends de votre bouche une infamie nouvelle.
Vous voulez que je parle et vous me défiez ?
Oui.
Eh bien, ne vous en prenez qu'à vous de toute la honte et tout le malheur qui vont vous accabler.
La honte ? Le malheur ?
Répéta la jeune fille, écoutant comme dans un rêve.
Vous ignorez que je sais votre nom, dit Mary.
Mon nom, c'est Lucie. Je portais le numéro 9 à l'hospice des enfants trouvés, où j'ai été placée à l'âge d'un an par ma nourrice. Vous faites allusion au nom de ma mère ? C'est une infamie de plus. Ma mère a été flétrie par une condamnation. Que vous importe à vous? Est-ce que vous avez le droit de l'insulter et d'insulter son enfant innocente? Est-ce que vous avez le droit de ternir ma réputation par la calomnie? Je m'appelle Lucie Fortier. La justice, abusée peut-être, a condamné ma mère. Eh bien, après, suis-je coupable, moi? Pourquoi vous faites-vous mon accusatrice? Nous sommes en présence l'une de l'autre, mademoiselle. Vous êtes riche et je suis pauvre. Vous portez un nom sans tache, je porte un nom flétri. Eh bien, si humble que soit mon rôle, je le préfère au vôtre, car le vôtre est odieux. Madame, s'écria Mary en s'adressant à madame Augustine, ou vous chasserez à l'instant cette fille, ou je croirai que vous m'insultez comme elle. Sa mère a été condamnée pour vol, pour incendie, pour assassinat. Bon sang ne peut mentir. Je redoutais les instincts de sa race, et tel est le motif qui me faisait vous déclarer tout à l'heure que je ne voulais plus la voir. J'avais peur. Mademoiselle Lucie, dit madame Augustine d'une voix sèche, vous passerez à la caisse pour y toucher ce qui vous est dû. À partir de ce jour, vous cesserez d'appartenir à ma maison. Lucie devint livide. Ainsi, vous me chassez? Balbutia-t-elle d'une voix étranglée. Vos services me deviennent inutiles. Mary eut un sourire de triomphe. La fille de Jeanne Fortier vit ce sourire. « Ah, vous vous réjouissez, n'est-ce pas ? » reprit-elle en regardant fixement son ennemi. « Non contente de me voler celui que j'aimais, non contente de me briser le cœur, vous me faites chasser. Après avoir détruit mon repos, ma joie, vous m'enlevez mon pain. Partout où je me présenterai à cette heure, on me demandera où j'ai travaillé. Je nommerai madame Augustine. Et madame Augustine, questionnée, répondra « Ne prenez point cette fille, sa mère a été condamnée pour vol, pour incendie, pour assassinat. » « Lucie, murmura la grande couturière émue. « Ah, madame, reprit l'ouvrière en éclatant en sanglots, vous avez été cruelle pour moi qui ne le méritais pas. Mais je vous pardonne de tout mon cœur. » « Quant à vous, ajouta-t-elle en se tournant vers Mary, Dieu se chargera de vous punir. » Et après avoir prononcé ces paroles, elle sortit. Mademoiselle Armand, restée seule avec madame Augustine, reprit aussitôt tout son aplomb. « Ma parole d'honneur, cette fille est folle » fit-elle d'un ton dédaigneux. « Elle m'accuse de lui avoir enlevé l'homme qu'elle aimait. Est-ce que cet homme, Lucien Labroux, pouvait aimer la fille de Jeanne Fortier qui a tué son père ?»« Que dites-vous là, mademoiselle ?» s'écria la tailleuse, stupéfaite. « La vérité, madame !» Mais c'est assez nous occuper de cette Lucie. Il est heureux pour la bonne renommée de votre maison qu'elle ait entendu ce que je disais et qu'elle soit entrée. Vous savez désormais par ses propres aveux à quoi vous en tenir sur son compte. Maintenant, voyons les étoffes que je vous demandais tout à l'heure. Tandis que se passaient dans le salon de madame Augustine les faits que nous venons de mettre sous les yeux de nos lecteurs, Georges Darrier, portant une serviette d'avocat bourrée de dossiers, sortait de sa maison et descendait d'un pas rapide la rue Bonaparte. Il paraissait fort affairé et en arrivant au quai, il se dirigea vers la station des voitures. Aucun fiacre ne s'y trouvait en ce moment. Georges regarda sa montre. Elle indiquait 9h10. « Il faut pourtant que j'arrive pour l'express de 10h15 » murmura-t-il. Et prenant sa course, il se mit en quête d'une autre station mieux fournie. Tout en s'éloignant, Georges ne s'aperçut pas qu'une enveloppe volumineuse, renfermant des papiers, venait de s'échapper de sa serviette et de tomber derrière lui, sur le trottoir de l'Institut. À cette heure relativement matinale, il passe peu de monde en cet endroit. Personne ne remarqua la perte que le jeune avocat venait de faire et par conséquent ne put lui donner l'éveil à ce sujet. Jeanne Fortier, la porteuse de pain, débouchant de la rue de Seine et traversant la voûte de l'Institut, qui conduit au quai, venait d'apparaître. Elle était tête nue et avait revêtu par-dessus sa robe le grand tablier à bavette, constituant en quelque sorte l'uniforme de l'emploi. Au moment où elle descendait du trottoir et s'engageait sur la chaussée, le paquet perdu par le jeune avocat frappa ses regards. Elle se pencha et le ramassa. C'était, nous le savons, une enveloppe très épaisse. Sur cette enveloppe, Jeanne lut ces mots. « Monsieur Georges Darrier, avocat. Georges Darrier, se dit-elle, n'est-ce point le nom de l'ami de M. Lucien Labroux?
C'est lui, certainement, qui a perdu cela. »
L'enveloppe n'était point cachetée. Jeanne, sans ralentir sa marche, en examina le contenu. Il y avait des notes, des feuilles de papier timbrées et la grosse d'un jugement.
« Voilà des pièces qui me paraissent sérieuses, » poursuivit l'évadé de Clermont en replaçant les papiers dans l'enveloppe.
« Où demeure-t-il, ce monsieur Georges Darier ? Son adresse n'est pas sur l'enveloppe, mais elle sera facile à trouver, et je lui reporterai cela. »
Jeanne plaça le petit paquet sur sa poitrine, derrière la bavette de son tablier, puis elle regagna le quai Bourbon. Ce matin-là, au moment où elle portait le pain à Lucie, la jeune fille lui avait dit qu'après avoir déjeuné, elle irait à l'atelier. En conséquence, elle ne fut nullement surprise de ne la point trouver chez elle. Jeanne fit son ménage en l'attendant. Lucie ne rentra que vers 11 heures. Nous savons en quel état était la pauvre enfant en sortant de chez Madame Augustine. Emportée par l'indignation, par la colère, elle avait cédé à un mouvement d'irrésistible violence bien facile à comprendre. Mais une fois à 100 pas du logis de la tailleuse, la réaction se fit, le calme revint, et Lucie put examiner froidement sa position. Elle venait d'être chassée des ateliers de Madame Augustine. Elle se trouvait sans travail, par conséquent sans ressources, et ce nouveau malheur venait de l'atteindre par la volonté de cette fille qui lui avait pris son fiancé et dont le père, fouillant dans son existence, avait jeté sur elle la honte du passé de sa mère. Une douleur poignante l'étreignait au cœur. Un désespoir immense s'était emparé de son âme. Tout se réunissait pour l'accabler. Autour d'elle, tout s'effondrait. Elle revint à pied, lentement, se traînant à peine, prise plus que jamais du dégoût de la vie.
« Je n'avais d'autre ressource que le travail, » pensait la malheureuse enfant, « et le travail va me manquer. Bientôt, dans tous les ateliers, on saura que je suis la fille d'une femme condamnée pour assassinat, et devant moi, toutes les portes se fermeront. »
Quand Lucie atteignit le quai Bourbon, elle était épuisée. Elle ne pleurait pas. Une lueur étrange brillait au fond de ses yeux secs. Une fièvre ardente brûlait son sang. Jeanne Fortier l'entendit rentrer et s'empressa de venir la rejoindre dans sa mansarde. En voyant le visage décomposé de sa fille et l'expression d'affolement empreinte sur ses traits, la porteuse de pain comprit qu'il avait dû se produire quelque chose d'anormal.
« Mon Dieu, mon enfant, que s'est-il passé ? » demanda-t-elle, prise d'un tremblement soudain. « Vous semblez bien émue. »«
Ah, c'est le dernier coup, maman Lison, » balbutia Lucie. C'est le dernier coup, celui qui tue.
Jeanne eut peur. « Parlez, dit-elle, parlez vite. Que vous a-t-on fait ?»«
J'ai été chassée. »«
Chassée ?» répéta l'évadé de Clermont en joignant les mains.
« Oui.
Par qui ?»«
Par Madame Augustine. Chassée comme une misérable, comme une indigne. Je suis sans travail. Après tant de souffrances, de tortures, je vais être sans pain. Je vous le dis, maman Lison, il ne me reste plus qu'à mourir. »
Jeanne sentait ses idées devenir confuses et se heurter dans son cerveau.
« Je vous entends, s'écria-t-elle, mais je ne vous comprends pas. Pourquoi votre patronne vous aurait-elle chassée ?
Pourquoi ? Répliqua Lucie, dont les sanglots éclatèrent avec une violence convulsive.
« Parce que je suis la fille de Jeanne Fortier !»
Jeanne étouffait. Elle porta ses mains à sa gorge et ses ongles entrèrent dans la chair.
« Qui donc lui a révélé cela ? »
fit-elle d'une voix sifflante, sans même avoir la conscience qu'elle parlait haut.
« Qui ? Ne le devinez-vous pas ? Mon ennemi ! La fille de l'homme qui a fouillé dans le passé de ma mère pour m'arracher celui que j'aimais ! La fille de Paul Armand, le millionnaire ! »
Une lueur sinistre s'alluma sous les paupières de la porteuse de pain, dont le visage pâle s'empourprait. Elle s'écria avec une exaspération terrible.
Mais quel acharnement ont-ils donc contre cet enfant ? Que leur a-t-elle fait pour qu'il la martyrise ainsi, pour qu'il la brise, pour qu'il la tue ? Le père d'un côté, la fille de l'autre ? Ah, ces gens-là sont des infâmes, et si Dieu est juste, ils seront punis.
Voyons, voyons, Lucie, ma chérie, ma pauvre mignonne, raconte-moi tout. Comment cela est-il arrivé ?
D'une voix faible, presque indistincte, Lucie fit le récit de ce qui s'était passé dans le salon de Madame Augustine.
Jeanne écoutait, les poings crispés, les narines frémissantes.
« Et ces gens-là ne seraient pas châtiés ?» dit-elle quand sa fille eut achevé.
« Ces misérables auront le droit de briser une existence, de calomnier une innocente enfant, de la réduire au désespoir et à la misère ?»«
Non, non, c'est impossible. Cela ne sera pas.
Vous n'aviez personne pour vous soutenir et combattre avec vous.
Mais me voici, et je vous défendrai.
La calomnie et la diffamation sont des crimes punis par la loi. C'est aux tribunaux qu'il faut s'adresser. »
« Aux tribunaux ?» répéta Lucie.
« Oui.
Comment s'y prendre ?
Il faut voir un avocat, le consulter, le chercher de votre cause, se révolter enfin et lutter. »
« Un avocat ?»
répéta Jeanne tout à coup, en se souvenant de l'enveloppe trouvée par elle sur le quai, près de l'Institut.
« L'ami de Monsieur Lucien Labroune se nomme-t-il pas Georges Darrier ?»«
Oui, ma bonne Lison.
Savez-vous son adresse ?»«
Parfaitement. Il demeure rue Bonaparte, numéro 27. »«
Eh bien, c'est lui que j'irai trouver. » »«
Ne faites pas cela, maman Lison. Ne vous adressez point à lui. »«
Pourquoi donc ?»«
Précisément parce qu'il est l'ami de Lucien Labroune. Il vous y conduira. »
Qui sait si, au contraire, il ne ramènera pas son camarade d'enfance à des sentiments meilleurs?
Il est l'avocat et le conseil de Monsieur Paul Armand.
Que m'importe? Ce que vous me dites là me pousserait à me rendre chez lui, si j'avais hésité.
Monsieur Darrier peut engager son client à cesser ses infamies, lui faire comprendre que la diffamation est un crime punissable, et lui réclamer pour vous des dommages-intérêts en réparation du tort matériel qu'il vous cause.
Je le verrai, vous dis-je. J'ai un prétexte tout trouvé pour me présenter chez lui. Il me conseillera pour vous, m'indiquera la marche à suivre.
Non, non, je n'hésite point, et je vais de ce pas trouver Monsieur Darrier. Sans même attendre la réponse de Lucie, Jeanne sortit vivement de la mansarde, entra chez elle, y prit l'enveloppe portant le nom de l'avocat, et partit pour la rue Bonaparte. En moins de 20 minutes, elle arrivait à la demeure de Georges, tant elle marchait rapidement.
« Monsieur l'avocat Darrier, » demanda-t-elle au concierge qui lui indiqua l'étage.
Jeanne gravit les marches et sonna. La vieille servante vint lui ouvrir.
« Monsieur l'avocat Darrier ? » répéta Jeanne.
« Monsieur n'y est pas, » répondit la servante. « Madame vient pour affaire, sans doute. »«
Pour affaire, oui. »
« Monsieur sera bien fâché de ne s'être point trouvé là, mais il est absent. »
« Son absence sera-t-elle longue ? » ?»«
Elle durera quelques jours. »
« Ah ! » fit Jeanne désappointée.
« Monsieur est allé plaider un procès à Tours. Il ne reviendra que mercredi prochain. »«
6 jours !» s'écria la porteuse de pain.
« 6 jours à attendre !»«
Il le faudra bien, madame. » !»«
Enfin, je reviendrai dans 6 jours !» murmura Jeanne avec découragement, puis elle regagna le quai Bourbon. Lucie, prise d'une fièvre violente, avait été obligée de se mettre au lit. La porteuse de pain se sentit glacée d'épouvante en la trouvant malade. La pensée que sa fille pouvait mourir la fit trembler de la tête aux pieds.
« Eh bien, maman Lison ?» demanda l'ouvrière d'une voix faible.
« Eh bien, ma chère mignonne, Monsieur Georges Darrier est absent de Paris. Je retournerai le voir aussitôt qu'il sera de retour. En ce moment, ce n'est point à lui qu'il faut songer. C'est à vous, mon enfant. Vous paraissez souffrir. »
« J'ai la fièvre.
Je cours chercher un médecin. »«
À quoi bon ?»«
Comment à quoi bon ? Mais je ne veux pas que vous soyez malade, moi. La moindre indisposition peut devenir sérieuse, faute de quelques soins. »«
Oh, vous aurez beau dire, je ne vous écouterai pas. »
Et la porteuse de pain, sortant en toute hâte, se mit en quête d'un médecin qu'elle ne tarda point à trouver et qu'elle ramena. Ce médecin, après avoir examiné la jeune fille, hocha la tête, pinça les lèvres, fronça les sourcils. Le cas était grave, ou tout au moins risquait de le devenir. Une fièvre cérébrale pouvait se déclarer d'un moment à l'autre. Le docteur écrivit une ordonnance et se retira en annonçant qu'il ferait une seconde visite le lendemain. Jeanne alla chez le pharmacien, fit préparer la potion ordonnée, revint s'installer au chevet du lit de sa fille et y resta jusqu'au moment d'aller reprendre son travail quotidien à la boulangerie de M. Lebret. Nous devons expliquer à nos lecteurs la présence de Raoul Duchemin, l'employé de la mairie de Joigny, dans le train tamponné à la gare de Bois-le-Roi à la suite d'une fausse manœuvre. Quoique le marchand de vin en gros, détenteur des faux billets, eût été payé intégralement, cet homme ne se gênait nullement pour raconter à qui voulait l'entendre l'histoire du remboursement effectué de la façon la plus inattendue par le protecteur inconnu du jeune employé. On sut bien vite dans Joigny que Raoul Duchemin, très gêné d'ordinaire, avait de l'argent plein ses poches, et naturellement, on se demanda par quel concours de circonstances bizarres il se trouvait en état de payer ses dettes quand tous ses créanciers jugeaient leurs créances irrécouvrables. On avait vu Duchemin causer avec un inconnu, dîner et déjeuner en compagnie de cet inconnu. Ceci parut suspect, comme tout ce qui n'est point facilement explicable, et servit de texte à des commentaires sans fin de la nature la plus malveillante. La rumeur publique, grossissant de jour en jour et d'heure en heure, arriva jusqu'aux oreilles du maire de Joigny. Ce fonctionnaire demanda des explications à son employé, lequel n'en put fournir aucune, ne comprenant pas bien lui-même ce qui s'était passé. La conclusion de l'entretien fut celle-ci. « Il est impossible que vous fassiez plus longtemps partie de l'administration municipale. Donnez donc votre démission, sinon je serai contraint de vous révoquer. » Duchemin, atterré par cette sentence sans appel, donna sa démission et se trouva sur le pavé, mal vu par tout le monde. Rien ne transpirait cependant de sa visite mystérieuse aux archives et du trafic qu'il avait fait avec le baron de Reiss, mais il tremblait qu'on ne découvrît le poteau rose. La suppression d'une pièce authentique, suppression à laquelle il n'attachait d'abord qu'une très minime importance, lui sembla bientôt singulièrement grave, et au lieu de bénir l'homme qu'il avait momentanément tiré d'un notable embarras, il regretta d'avoir rencontré cet homme sur son chemin, et fut bien près de le maudire. Tout d'abord, le jeune viveur songea à aller à Paris, où il pourrait trouver un emploi, et où, du moins, il disparaîtrait dans la foule. Possesseur encore de quelques pièces d'or, de quoi vivre pendant 2 ou 3 semaines, il prit le chemin de fer. Nous savons qu'un grave accident de voyage devait amener une rencontre entre lui et la personne qu'il pouvait à bon droit regarder comme la première cause de sa perte, mais non cependant comme la seule. Amanda Régami avait été en effet fatale pour lui, mais il possédait un riche assortiment de penchants vicieux, et à défaut de la sirène batignolaise, la première coquine venue l'aurait conduite au mal. Sa blessure, quoique grave, nous l'avons dit, ne pouvait entraîner la mort, à moins de complications tout à fait improbables, et les bons soins qu'on ne cessait de lui prodiguer devaient bientôt le remettre sur pied. Amanda attendait avec impatience le moment où l'état du blessé lui permettrait de se présenter à lui. La jeune femme ne s'étonnait pas le moins du monde que le pseudo-baron de Reiss n'eût point reparu à Bois-le-Roi. Elle avait bien deviné que son départ cachait une rupture, mais elle caressait une idée fixe, celle de se venger, et elle se disait que Raoul Duchemin serait pour sa vengeance un auxiliaire d'un prix inestimable, un associé convaincu, car à coup sûr les liens qui l'attachaient au baron Arnold de Reiss devaient lui peser. Chaque jour, et plusieurs fois par jour, la jeune femme demandait des nouvelles de son ex-amant à la servante de l'hôtel. Enfin, un soir, elle obtint cette réponse. « Je crois que présentement madame pourrait voir ce pauvre monsieur, quoiqu'il soit encore alité. »